Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, soyez les bienvenus. Et nous allons demander au Seigneur vraiment d'ouvrir nos cœurs pour que sa parole puisse résonner en nous, faire écho à nos besoins, peut-être des besoins d'espérance, des besoins d'encouragement, des besoins de consolation, peut-être de répréhension. Peut-être de refocalisation qu'il puisse agir. Demandons-le lui. Seigneur, nous voulons vraiment passer ce temps avec ton esprit qui agit en nous pour que ta parole soit rendue effective, efficace dans nos cœurs. Tu as parlé de ces différents terrains qui reçoivent la parole. Seigneur, seul ton esprit peut faire de notre cœur une bonne terre où ta parole puisse germer, lever, mais ne pas retomber et aller jusqu'au bout en portant de bons fruits que nous puissions mettre en pratique. Alors nous voulons vraiment, Seigneur, te demander de nous visiter dans l'état où nous nous trouvons, simplement que nous t'ouvrions notre cœur avec joie. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous avons lu tout à l'heure Ésaïe 53. Et c'est un chapitre vraiment connu, n'est-ce pas? Un chapitre qui prophétise 750 ans avant les souffrances du serviteur. Le chapitre, en réalité, commence un petit peu avant, au chapitre 52. Il n'y avait pas un tel découpage de chapitres dans les livres autrefois. Et le chapitre commence en disant « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est pour vous un sujet de joie? Amen. Et ce chapitre, ce passage d'Ésaïe est tellement fort que nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Un beau passage qui permet d'évangéliser, qui permet d'annoncer l'évangile à celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Et nous le trouvons dans le témoignage que le diacre Philippe va rendre auprès d'un eunuque éthiopien qui était en pèlerinage à Jérusalem. Et c'est le livre des Actes au chapitre 8 qui nous relate cela. Voyons-le. Parce que nous voyons dans ce texte comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour témoigner, pour évangéliser. En Actes, au chapitre 8, et à partir du verset 30, lisons simplement cet épisode. Ça commence un petit peu avant, au verset 26. Quoi qu'il en soit, c'était un ministre, un eunuque éthiopien qui était ministre de la reine d'Éthiopie et qui était venu à Jérusalem pour adorer, nous dit le verset 27. Et il s'en retournait. Et j'imagine bien que à Jérusalem, il avait fait certainement l'acquisition de ce rouleau d'Ésaïe. Sans doute ne l'avait-il pas emporté d'Éthiopie avec lui, mais avait-il profité de son séjour à Jérusalem, là où les scribes scrupuleusement recopiaient la parole de Dieu, et il s'était procuré sans doute le rouleau du livre d'Ésaïe, et il a hâte. Il a envie de dévorer la parole et il n'attend pas d'être revenu en Éthiopie. Le voilà avec sa nouvelle acquisition, sans doute, je m'avance un peu, hein. Mais il est sur son char et il ouvre le rouleau. Avait-il déjà lu les 52 chapitres qui précèdent? Je ne sais. En tout cas, il est arrivé au chapitre 53. Et voilà Philippe qui arrive, qui accourt et qui entend l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, verset 31, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il nous arrive de rencontrer des gens qui nous interpellent et qui nous invitent à leur annoncer l'évangile. Ils disent, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu, là, ton église, tout ça, un jour tu me raconteras. Eh bien, viens, on va s'asseoir un moment ensemble et je vais te présenter ça. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Nous avons là deux versets de notre texte d'Ésaïe. Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» Voilà, dans ce passage d'Ésaïe, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, ce serviteur dont le visage était défiguré. De qui s'agit-il ? Et l'eunuque demande, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est formidable, n'est-ce pas ? Comment la parole de Dieu peut faire la différence dans un cœur, peut pénétrer, agir et être reçue pour passer de la mort à la vie. Et nous avons là un formidable passage d'évangélisation qui se sert de l'Ancien Testament, d'une prophétie à propos du Messie et qui est appliquée à Jésus-Christ. Et nous savons que l'eunuque va ensuite se faire baptiser. Alors, simplement un petit peu d'histoire. On se dit, tiens, pourquoi cet Éthiopien était-il à Jérusalem ? Eh bien, parce que nous avons retrouvé tout un clan d'Éthiopiens qui sont, depuis des millénaires, des Juifs. En Éthiopie, on les appelle les Bêta Israël, et Israël a été en contact avec eux simplement autour de 1850. Leur origine, on ne sait pas exactement. Nous savons que Moïse a épousé une Éthiopienne. Nous savons ensuite que la reine d'Éthiopie, la reine de Saba, est venue voir Salomon. Et il y avait donc un témoignage de la parole de Dieu, témoignage juif, qui était implanté en Éthiopie avant Jésus-Christ. Et qui n'avait pourtant pas de lien génétique. Et cet eunuque vient donc sans doute à Jérusalem parce qu'il est dans ce milieu, dans cette culture, dans cette adoration, il vient à Jérusalem pour adorer. Bien sûr, quand il va s'en retourner, nous imaginons bien qu'il a annoncé Jésus le Messie. En disant, hé, d'abord je ramène le rouleau d'Ésaïe. Et puis vous savez ce que j'ai découvert ? C'est que le serviteur là, qui a été frappé. Eh bien, il a été frappé pour nos péchés. Ça y est, ça s'est produit. C'était une prophétie, mais maintenant, il est venu. Il s'appelle Jésus. Et il va raconter l'histoire. Et nous avons ici, historiquement, la naissance de toute une communauté chrétienne en Éthiopie. Bien sûr, comme en Israël, une partie va accepter Jésus le Messie et une autre partie va refuser Jésus le Messie. Et voilà pourquoi, 2000 ans après, nous avons encore en Éthiopie des Juifs éthiopiens, ce qui a donné lieu ensuite dans l'histoire à un retour vers Israël dans des circonstances un petit peu particulières, lorsqu'en Éthiopie, c'est un régime communiste qui a pris le pouvoir, ils ont été persécutés, on leur a pris leurs terres, ça devenait très compliqué, il y avait une guerre civile. Et donc, il y a eu un épisode unique dans l'histoire qui a été l'exil par transport aérien de milliers de juifs en pleine guerre civile. C'est le Mossad, le service secret israélien, et la CIA, hein, qui ont organisé en 84 jusqu'en 91, comme cela, le transport de milliers de juifs pour les extirper d'une guerre civile et pour les amener sur la terre d'Israël. Donc, toujours ce témoignage de l'Éthiopie et toujours ce témoignage de la foi en Jésus. Ça, c'est pour nous rappeler que la Bible, c'est pas juste des histoires comme ça. Ça a un ancrage dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait 2000 ans que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est toujours vivant et il transforme des vies. Amen. Alors, nous avons ce beau témoignage d'Ésaïe 53 concernant le Messie. Et peut-être on se dit, mais comment se fait-il que les Juifs, une partie bien sûr des Juifs, aient reconnu en Jésus le Messie? Et ça a donné l'Église. L'Église était juive avant tout dans ses commencements. Et puis notre partie a refusé. Comment peuvent-ils se retrouver face à ce texte d'Ésaïe et ne pas voir Jésus-Christ? Certainement un aveuglement. Alors, en théologie, comment interprètent-ils ce passage? Ils disent, bien voilà, en réalité, le serviteur dont il est question ici, ce n'est pas le Messie. Il faut savoir que dans les prophéties, lorsqu'il est question du serviteur, le serviteur peut être soit un prophète, soit le Messie, soit Israël. Tout dépend du contexte. Des fois, le serviteur, c'est Israël. Des fois, le serviteur, c'est le Messie. Et des fois, le serviteur, c'est le prophète lui-même. Ils disent, non, dans ce texte, il ne s'agit pas du Messie, il s'agit d'Israël. Le serviteur, c'est Israël. Et c'est très intéressant parce qu'en théologie, ils disent, voilà, le peuple juif est persécuté et souffre depuis des années, depuis des siècles. Et toute cette souffrance qui lui est infligée, toutes ces morts, tous ces holocaustes, eh bien en fait, ça arrive à Israël parce qu'Israël est en quelque sorte le bouc émissaire biblique. Celui qui porte le péché des peuples. Ils disent non, en fait, tout ce passage, c'est Israël qui souffre et qui est le sacrifice expiatoire pour les autres nations. Et voilà pourquoi, même encore aujourd'hui, en théologie, les Juifs ne considèrent pas tous les drames qu'ils ont vécus comme ce que la Bible en dit, c'est-à-dire comme étant un châtiment de Dieu, en disant, mais si vous n'obéissez pas à ma voix, etc., je vous exilerai, je vous châtirai, vous tremblerez d'effroi, il y aura l'épée, il y aura la famine, il y aura... Puis je vous ramènerai. Il y a un refus en disant, non, toute notre souffrance ne vient pas de notre rébellion, elle vient simplement que nous sommes là pour expier les péchés de l'humanité. Voilà comment un aveuglement reste. Et c'est pas pour rien que Paul écrit en disant, quand on lit Moïse, le voile demeure. Parce que le voile n'est ôté qu'en Christ. On observe la loi, on observe la parole, mais il y a un endurcissement, un aveuglement, un voile qui reste devant les yeux. On ne veut pas voir Jésus-Christ. Et la question ce matin, c'est est-ce que vous voulez voir Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez fixer les yeux sur Jésus dans votre vie? Amen. Alors, il y avait dans l'Ancien Testament un autre symbole très fort de la croix. Bien sûr, il y avait ce chapitre, ce texte d'Ésaïe. Il y avait des textes dans les psaumes. Mais il y a un type, c'est-à-dire une image. C'est le serpent des reins. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire du serpent des reins? Nous la trouvons en Nombre 21. Vous pouvez ouvrir votre Bible, mais je vais simplement la raconter. Nombre 21, les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel, ils se sont rébellés, ils ont râlé, je ne sais plus exactement. Et le Seigneur va les châtier. Et pour les châtier dans le désert, il envoie donc des serpents venimeux, des serpents brûlants, venimeux. Et tout un tas de personnes en Israël se fait donc mordre par ces serpents et meurent. Et ils sont super nombreux, tous ces serpents. Et ils se disent, mais on va jamais s'en sortir. Ça y est, je suis mordu, il me reste quelques minutes à vivre, peut-être. Et Moïse se tourne vers l'Éternel, et l'Éternel lui dit, bien, je vais pourvoir à un moyen de salut. Il dit, prends une perche, et puis tu vas te fabriquer l'image d'un serpent, tu les vois ces serpents, tu vas t'en fabriquer une image en airain, un serpent donc en métal. Et tu vas mettre ce serpent, tu vas le fixer sur une perche et tu vas lever bien haut cette perche. Et quiconque tourne les regards vers le serpent d'airain sur la perche, sur le bois, sera sauvé, sera guéri. Et effectivement, les Israélites, lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, lorsqu'ils tournaient leur regard vers ce serpent d'airain sur le bois, alors ils étaient guéris, délivrés du châtiment de leur péché, puisque là, les serpents étaient directement la sanction de Dieu contre leur rébellion. Vous allez dire, mais je ne vois pas tellement le rapport avec Jésus. Pourquoi un serpent? Un serpent, ça nous rappelle le jardin d'Éden, ça nous rappelle Satan, et ça nous rappelle que le serpent a été maudit. Alors comment est-ce que on peut comparer Jésus à un serpent qui a été maudit? Comment est-ce que ce serpent pouvait-il être une image de Jésus-Christ qui lui est sans péché? Eh bien, le Nouveau Testament nous répond. Il nous répond d'abord en 2 Corinthiens 5, verset 21. En 2 Corinthiens, au chapitre 5, nous lisons à propos de Jésus et à propos de la réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, donc c'est effectivement Jésus-Christ qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, sur la croix, Jésus a porté nos péchés, et le texte biblique va jusqu'à dire, lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et nous voyons cette image du serpent qui effectivement, à nos yeux, représente ce symbole de Satan, du péché qui entre dans le monde. Eh bien oui, sur la croix, Dieu a fait devenir Christ péché pour nous, pour que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Un autre passage, c'est Galates, Galates 3, 13. On se dit, mais ce serpent a été maudit. Le verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « maudit et quiconque est pendu au bois. » Ça, c'est un texte de Deutéronome 21. « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Oui, Jésus est resté sur la croix. Il est devenu malédiction pour nous, et nous voyons cette image du serpent qui effectivement était maudit, était ce symbole de l'entrée du péché dans le monde. Et bien le serpent d'airain, c'est l'image de ce que Jésus-Christ qui était sans péché a fait pour nous. Il est devenu pour nous malédiction, il est devenu pour nous péché. Amen. Et nous avons du mal à concevoir comment Jésus-Christ a pu, étant sans péché, ayant en horreur le péché, en amour la sainteté, ce que ça a été pour lui que de porter nos péchés, que de devenir péché pour nous. Bien sûr, cette comparaison entre le serpent d'airain et la croix de Jésus nous est donnée par Jésus lui-même. Et nous le voyons dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus parle à Nicodème. En Jean, au chapitre 3, nous connaissons bien sûr ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais au verset 14, donc deux versets avant, Jésus dit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Qu'il soit élevé sur quoi ? Sur la croix. Alors la croix, nous voulons ce matin considérer ce qu'elle est pour nous, cette croix. Ou ce qu'elle est pour les autres. En 1 Corinthiens 1, verset 18, nous trouvons une expression un peu curieuse à propos du message de la croix. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit: « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Est-ce que la croix de Jésus est puissance de Dieu dans votre vie? Amen. Mais nous sommes surpris, on se dit: « Mais je ne comprends pas. » Des tas de gens autour de moi qui... Je ne comprends pas pourquoi ils ne se tournent pas vers Jésus. Ils sont là en train de ramer dans leur vie, dans leur âme, pour leur avenir, pour leur éternité. Pourquoi cette résistance? Pourtant, le message de la croix, c'est une puissance, il est clair, il est simple. Mais la Bible nous dit: oui, mais ce message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Nous avons une autre expression en Galates 5, verset 11, là, c'est le scandale de la croix. Une folie ou un scandale? Scandale, nous le voyons aujourd'hui à travers la réception que le monde musulman donne à la crucifixion, en disant: mais c'est un scandale qu'un prophète puisse être mis à mort. C'est pas possible. Si c'est vraiment un prophète de Dieu, c'est pas possible que Dieu le lâche, entre guillemets. C'est pas possible, c'est un scandale. Un prophète qui est de Dieu, il a la victoire, Dieu est avec lui, personne ne peut le toucher, il ne peut pas mourir. Donc, Jésus, c'est pas possible qu'il soit mort. C'est un scandale. Et c'est vrai que c'est un scandale. C'est un scandale que celui qui n'a jamais commis le moindre péché, la moindre faute, ait été mis à mort. C'est un scandale qu'il l'ait fait volontairement. C'est un scandale qui nous est tant aimé. Comment est-ce que c'est possible qu'il nous ait tant aimé? Une folie pour beaucoup. Vous dites: oh, alors toi tu dis que Dieu qui a tout créé, il s'est fait homme et puis il a donné sa vie. Alors Dieu est mort, il est allé vers la mort, mais ça n'a ni queue ni tête. Ouais, ça a bien une queue, une tête, ce qu'on veut. Mais cette puissance, nous qui sommes sauvés, nous la saisissons. Ne soyons pas étonnés si lorsque nous parlons de la croix, elle puisse apparaître comme un scandale ou comme une folie. Dieu n'a pas voulu sauver et toucher les cœurs par la puissance d'une intelligence qui pèse, une philosophie, mais par la croix. Et quand on entre dans cette croix, elle est tout ce qu'il y a de plus sensé, de ce qu'il y a de plus intelligent, lorsque le voile est enlevé. Et pour nous qui sommes sauvés, en Galates 6, verset 14, la croix est notre seul sujet de gloire. Paul dit en Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, moi dans ma vie, je n'ai pas envie d'être fier d'autre chose que de la croix de Jésus. Des fois on dit, ah, je suis un peu fier de ma réussite, de mon ascension sociale, je suis fier de mes enfants, je suis fier de... Je suis plutôt fier de moi, je suis content. Moi, s'il y a une chose dont je dois être fier, c'est être fier de Jésus-Christ et de la croix de Jésus-Christ. On dit, mais c'est bizarre d'être fier de la croix de Jésus-Christ, tu n'y es pour rien. Et puis il dit, ben justement, j'y suis pour rien. La croix de Jésus, il a tout fait. Mais il dit, mais je suis fier de Jésus. Et on peut se poser cette question, est-ce que dans votre vie, vous marchez en étant fier de Jésus? On est fier de tas de choses. Il dit, mais enlevons tout cela. Soyons fiers de Jésus. Réjouissons-nous. Le mot glorifier ici, se glorifier, c'est à la fois être fier et à la fois se réjouir. C'est le mot se réjouir aussi. Il y a une satisfaction, une joie, une réjouissance et une fierté de la croix de Jésus. Parfois, on cherche dans notre marche des sujets de réjouissance, de gloire, de fierté, de satisfaction, j'ai envie de dire. Peut-être un mot qui nous parle davantage. Et on se retrouve si souvent vite insatisfait. Insatisfait de soi, insatisfait des circonstances de notre vie, insatisfait des autres peut-être. Manque de réjouissance. Seigneur nous dit, viens fixe tes yeux sur moi. Toi, pour l'instant, tu fixes tes yeux peut-être sur ton travail, tu fixes tes yeux sur ta maison, tu fixes tes yeux sur ta famille. Fixe-les plutôt sur moi, réjouis-toi en moi, puis le reste suivra. Le reste suivra dans ton cœur, parce que cette joie de la croix, elle va descendre sur toutes les parties de notre vie. Elle va se répandre. Alors, retenons cette question. Est-ce que dans ma vie, je marche en étant fier de Jésus-Christ? Ou est-ce que comme Timothée, à qui Paul était obligé de dire, n'aie donc point honte de l'évangile, ni du témoignage à rendre. Est-ce que je marche en étant fier de la croix? Ou peut-être en la cachant? Est-ce qu'elle est mon sujet de gloire, de réjouissance? Peut-être on se dit, je manque un peu de joie, je manque de satisfaction. Fixons nos regards sur Jésus. Que la croix devienne notre sujet prioritaire de gloire. La croix encore, elle nous est présentée en Éphésiens 2 et en Colossiens 1 comme ce qui fait la réconciliation. Nous pouvons prendre ces passages, Éphésiens 2, 16. Et peut-être vous avez déjà vu ce schéma entre la coupure et le gouffre qu'il y a entre Dieu d'un côté et l'homme de l'autre, entre le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Il y a un gouffre qui n'est pas franchissable, sauf si on met un pont entre les deux, quelque chose qui va réconcilier, qui va pouvoir lier, rattacher les deux. Et souvent, il y a ce schéma un petit peu de la croix qu'on met entre les deux, alors avec les deux bras comme ça, elle relie. La croix fait le pont entre l'homme et Dieu, elle fait le pont entre la terre et le ciel. Et Éphésiens 2, verset 16 nous dit que Dieu donc a voulu réconcilier, le « a voulu », c'est le verset 15, hein. Il a voulu réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bien sûr, ici, la séparation et le besoin de réconciliation concernaient la nation juive et les nations païennes. Mais n'y a-t-il pas des antagonismes, des antagonismes raciaux, des antagonismes sociaux? Est-ce que nous, notre monde ne porte pas énormément de symptômes de rupture, de séparation? Évidemment, c'est le péché qui nous sépare les uns des autres, qui nous divise les uns des autres. C'est peut-être une question de nationalité, c'est peut-être une question de rang social. Et on continue. Satan divise. Et il divise même dans les familles, divise dans les églises. Nous avons besoin d'être réconciliés. C'est Colossiens 1 qui donne l'expression la plus complète de cette réconciliation. Colossiens 1, chapitre 20. Au chapitre 19, à propos de Christ, il dit « Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Et le verset 20, « Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Pour nous, ça nous pose la question, bien sûr, au-delà de la réconciliation première dont nous avons besoin avec Dieu, pour être réconciliés avec les autres, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes sûr d'être réconcilié avec Dieu? Dites, mais moi, je n'ai pas de problème avec Dieu. Et le verset 21 qui suit nous dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Alors pourquoi vous dites que vous n'avez pas besoin d'être réconcilié? Notre manière de vivre, notre manière de penser, d'agir, à un moment, nous faisons le choix de ce qui abîme. De ce qui nous abîme, de ce qui abîme les autres. Et Dieu appelle cela le péché. Il dit, mais moi je vous ai créé à mon image et vous êtes en train d'abîmer mon œuvre. Je ne vous ai pas créé pour être abîmé par le péché. C'est en train de vandaliser ce que j'ai créé. Vous vandalisez mon œuvre. Vous êtes mes ennemis là. Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Pour être réconcilié avec Dieu, il s'agit simplement de lui parler, de dire « Seigneur, dans ma vie, c'est vrai que le péché règne. C'est vrai que ça abîme les autres, ça m'abîme. Je suis ma propre voie. Mais aujourd'hui, je prends la décision qu'il n'en soit plus ainsi. Je ne veux plus suivre ma propre voie. Je veux te suivre, toi. Je veux te connaître. Je veux me réconcilier avec toi pour que tu vives dans ma vie, pour que tu me parles, pour que tu m'enseignes, pour que je sois dans une relation. Et c'est possible parce que Jésus-Christ est mort pour moi, pour pardonner mes péchés. Il a pris mes péchés sur lui. Il est devenu péché pour moi, pour que moi je puisse devenir en lui justice. Justifié de tous mes péchés par Jésus. On peut demander cela à Jésus. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Si nous l'avons fait, néanmoins la question de la réconciliation demeure. Est-ce que nous avons besoin d'être réconciliés dans notre vie? Réconciliés peut-être avec d'autres personnes. Eh bien, c'est par la croix qu'il faut passer. Jésus nous dit au travers de la plume de l'apôtre Paul, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, notre pardon, elle prend pour appui le pardon que nous avons reçu de Jésus. Il dit, vous avez été pardonné? Oui, j'ai été pardonné. Tu as été pardonné de beaucoup? Oh, pas tant que ça. Ah ben, t'as rien compris. T'as été pardonné de beaucoup? Oui, Seigneur, j'ai été pardonné de beaucoup. Alors pardonne. C'était la parabole des débiteurs, n'est-ce pas? Est-ce que peut-être j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même? Est-ce que nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes? Et je pense à des situations un petit peu extrêmes aujourd'hui où des gens sont en profonde souffrance dans leur identité et ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Et par exemple, vers quoi vont-ils aller? Vers un changement de sexe. Le transgenre, oui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens profondément malheureux, mal avec eux-mêmes. Ils ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Peut-être Dieu leur a donné une identité masculine ou féminine, selon les cas. Et cette identité-là, ils sont en antagonisme avec. Et la solution du monde, eh bien, ce sont les opérations, c'est tout ça, c'est ce chemin du transgenre. Le Seigneur nous dit, mais tu ne vas pas te réconcilier avec toi-même. Tu vas encore plus t'abîmer. Mais je peux comprendre le tourment qu'il y a pour ces personnes et qui est un exemple du tourment de chacun d'être réconcilié avec lui-même. Nous n'allons pas certainement prendre des solutions aussi radicales, mais plus subtiles, mais qui n'en sont pas moins charnelles. Pour être réconciliés avec nous-mêmes. Sauf la croix. Et le message de l'évangile, c'est de dire, mais si tu veux être réconcilié, même avec toi-même, va vers la croix. Et nous avons un message à communiquer. L'évangile est pour tous. Amen. Et pour des tas de personnes qui ont besoin d'être réconciliées avec elles-mêmes. Osons leur annoncer Jésus qui, par ses meurtrissures, nous guérit. Peut-être nous avons besoin d'être réconciliés avec notre vie chrétienne. Peut-être on est dans la vie chrétienne et puis on dit, ouais, mais elle ne me convient pas tout à fait, je ne sais pas, je crois tout ça, je sais, je viens, je... Mais... Et peut-être on boude un petit peu notre vie chrétienne. On se dit, j'aurais besoin de te réconcilier avec la vie en Jésus-Christ. Là encore, un seul chemin. Revenir à la croix. C'est à la croix qu'a lieu la réconciliation. La réconciliation, c'est la relation. Une relation vraie, vivante, intime, joyeuse avec Dieu. Et souvent, quand notre vie chrétienne, on la boude un peu, qu'on n'est pas bien, on aurait besoin d'être réconcilié avec notre vie chrétienne, c'est parce que nous avons perdu la relation avec Dieu, cette fraîche, vivante, joyeuse relation avec notre Sauveur, avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être réconciliés. C'est à la croix qu'a lieu la réconciliation. Et puis nous terminons avec une autre caractéristique de la croix. Nous la trouvons en Romains 6, verset 6, puis ensuite encore en Galates. Déjà en Romains 6, nous lisons Romains 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Que se passe-t-il à la croix? Ce vieil homme qui obéit de façon naturelle, innée au péché, ce vieil homme est crucifié pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Galates 2, verset 20, nous parle encore de la croix de cette manière. Galates 2, verset 20, Paul exprime ce qu'il vit dans son être intérieur et il dit: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Formidable. Crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un petit peu plus loin, Galates 5, verset 24, nous dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce qui se passe à la croix, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est pas juste Jésus qui a été crucifié tout seul, en quelque sorte, mais spirituellement, nous sommes identifiés à lui. Il y a une expérience spirituelle qui est jointe au moment de la conversion, au moment de la réconciliation avec Dieu. Dieu nous... spirituellement et dans les temps passés, en quelque sorte, au moment où Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. C'est le symbole du baptême. Et qu'est-ce qui a été crucifié? Eh bien, mon ancienne manière de vivre, mon vieil homme, la chair. Ce qu'on appelle la chair, c'est cette propension à faire des choix, ben, des mauvais choix, des choix qui sont coupés de l'intelligence du Seigneur, de sa pensée. Et nous sommes devenus un nouvel homme avec Christ. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à ceux qui étaient là vendredi soir et avec qui nous réfléchissions. Est-ce que nous, quand nous serons au ciel, nous nous souviendrons de notre vie terrestre? Eh bien, l'une des choses importante ici, c'est bien sûr nous en souviendrons, mais certainement pas de la manière dont nous pensons nous en souvenir maintenant, puisque nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le vieil homme a été crucifié et notre mémoire sera: mais ça c'était le vieil homme, ça c'était le vieil Adrien, mais c'est plus moi. C'est plus moi, je suis un homme nouveau créé en Jésus-Christ. Amen. Et parce que je suis un homme nouveau, c'est un homme nouveau. L'autre dont je me souviens, mais c'est le vieil homme. Il a été crucifié avec Christ, c'est fini. C'est mort et enterré, cette histoire-là. Amen. Eh bien, nous avons besoin de revenir dans nos luttes, dans nos combats, lorsque nous sommes tentés par le péché. Lorsque nous nous trouvons face à la tentation et tentés de ne pas faire le choix selon Dieu. Et on voit, comme disait Paul, une loi qui combat en nous-mêmes. On veut obéir au Seigneur, et en même temps, on voit en nous-mêmes ce vieil homme crucifié qui gigote dans son cercueil. Et qui veut se rappeler à nos bons souvenirs, et qui veut reprendre le contrôle et le dessus. Seulement, nous ne sommes plus esclaves du péché. Épître aux Romains nous dit: que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Bien sûr, il fait des appels du pied. Oui. Mais on n'est plus lié. Nous n'avons plus d'obligation de lui obéir. Il dit donc: n'obéissez pas à ses convoitises. Vous pouvez dire non. Mais comment? Par la puissance de la croix. Et nous avons besoin, lorsque nous vivons ce combat quant à une manière d'agir qui n'est pas selon Dieu ou celle qu'on sait être selon Dieu, en disant mais ah, j'ai envie de dire que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que ton vieil homme, ça c'est vrai. Et ton vieil homme a été crucifié. C'est pas une image, c'est une réalité spirituelle sur laquelle tu peux t'appuyer. Sache que tu as été crucifié avec Christ et que tu es ressuscité avec lui. Tu es une même plante avec lui. Tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors dans ces moments-là, levons les yeux vers Jésus. Souvenons-nous de l'œuvre de la croix et qu'à la croix, il nous a libérés, délivrés de l'emprise du péché. Et nous pouvons à ce moment-là prier et dire, Seigneur, je sens que c'est compliqué, mais je me souviens maintenant qu'à la croix, tu m'as donné la victoire sur le péché. Et je la saisis pour la vivre maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette affirmation, nous pouvons la faire nôtre. Et nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, en cet instant, face à cette situation compliquée pour moi et pour mon vieil homme, eh bien, je sais qu'il y a une issue, cette issue. C'est que tu vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et on dit au Seigneur, Seigneur, ça je veux le vivre maintenant. Et je le déclare par la foi. Seigneur, que ce soit toi qui vives en moi en cet instant. Et vous verrez la tentation qui va vous lâcher le grappin qu'elle avait posé sur vous. Le Seigneur libère. Alors, la croix, qu'elle soit toujours présente à nos yeux, mais il y a quelques semaines, nous avons étudié le roi Ézéchias et nous avons vu qu'une des choses qu'Ézéchias a fait, c'est de mettre en pièces le serpent d'airain, n'est-ce pas ? Symbole de la croix, parce qu'il était devenu un objet d'idolâtrie. On l'avait conservé précieusement et c'était devenu un objet d'idolâtrie. N'en est-il pas parfois de même de la croix ? La croix ! Nous n'avons d'ailleurs plus de croix ici. Nous pourrions en mettre, on n'est pas opposé. D'ailleurs, au grenier, en nettoyant hier, j'ai retrouvé une gigantesque croix en bois. Mais nous savons aussi l'objet d'idolâtrie qu'elle a pu devenir. On a sa croix là, on a son crucifix. Et c'est devenu un objet d'idolâtrie puisque nous regardons la croix mais nous oublions le Seigneur et le Sauveur de la croix, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la croix qui compte, c'est celui qui a été crucifié dessus et qui est ressuscité. N'échangeons pas une relation vivante pour une espèce de religiosité idolâtre par des objets ou d'autres choses. Et c'est pourquoi nous terminons sur Hébreux 12, verset 2. Ce sera le mot de la fin. Hébreux 12, 2. Pourquoi ne pas lire le verset 1 également ? Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ce sont tous les témoins qui précèdent au chapitre 11, les témoins d'une foi vraie, vivante, qui font une pleine confiance en Dieu, et nous avons tout un tas de noms, de personnes qui ont fait confiance au Seigneur pour leur vie. Est-ce que moi je fais confiance au Seigneur pour ma vie, pour vivre cette vie ici-bas ? Est-ce que j'ai placé ma confiance en Jésus ? Oui. Alors, le texte nous dit, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous enveloppe facilement ? Rejetons-le. Nous pouvons, par la croix, nous pouvons le rejeter. Nous ne sommes plus esclaves du péché pour lui obéir. Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, frères et sœurs, courons avec persévérance dans la carrière, cette carrière de notre vie, cette carrière terrestre. Demain, après-demain, j'aurai des choses. Voilà la carrière. En rejetant ce péché qui m'enveloppe facilement, en le rejetant par la croix, par la victoire de Christ à la croix, ayant les regards fixés sur Jésus. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur Jésus qui a souffert à la croix et qui est ressuscité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces si beaux textes d'Ésaïe. Et puis, tous les autres dans lesquels nous avons été navigués. Merci parce que tu nous as aimés d'un si grand amour, tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, dans nos combats du quotidien, tu veux nous rappeler de lever les yeux vers Jésus, de garder nos regards fixés sur Jésus. Comme un coureur. Seigneur, il ne s'agit pas de regarder droit devant nos pieds, mais vers la ligne d'arrivée. Et cette ligne, c'est Christ. Alors Seigneur, que nous puissions nous recentrer sur toi, dans notre vie, et que cette croix soit toujours présente et agissante dans nos cœurs, dans nos vies, face au combat que nous avons tous les jours, face au découragement. Peut-être pour la réconciliation que nous avons besoin, dont nous avons besoin, avec d'autres, avec toi, avec nous-mêmes, avec notre vie chrétienne. Rappelle-nous combien, Seigneur, ta croix est pour nous puissance de Dieu. Par Jésus. Amen.